La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, présence spéciale lors de l'expérience mystique, Jacques Maritain. À la fin des degrés du savoir, Maritain consacre de longues pages à l'apport de l'expérience mystique quant à la connaissance. Et il s'appuie sur les poésies de Saint Jean de la Croix qui relatent son expérience mystique. Notamment, vous le savez tous, quand il fut enfermé par ses propres frères carmes dans un cachot humide, ce fut un moment de nuit obscure où il eut les plus grandes grâces. Nous étions restés la semaine dernière sur la particularité de la présence de Dieu dans l'expérience mystique. Il ne s'agit pas de la présence de Dieu telle que nous le vivons quotidiennement dans les choses, dans la nature, dans le présent même du monde. Maritain insiste. Cette présence spéciale présuppose sans doute ce qu'il a appelé la présence d'immensité et ne serait pas possible sans elle. Mais d'elle-même, et selon ses exigences propres, c'est une présence réelle et physique, et Maritain met ça en italique, réel et physique, et il rajoute, entre parenthèses, ontologique de Dieu, au fond de nous. J'aurais presque envie de rajouter corporel. C'est dans le corps, c'est vraiment le sommet du mystère de l'incarnation. Donc, incarné, incherné, je ne sais pas comment on peut le dire, mais la thématique de l'année étant le corps, il était impossible de ne pas s'arrêter sur l'expérience mystique, surtout quand on va vers Pâques. Alors, comment peut-on imaginer appréhender cette présence particulière ? Maritain revient toujours sur les bases thomistes. Comment cela ? À quel titre écrit-il ? Réponse : à titre d'objet. Quand on parle de Dieu présent par sa présence immense, c'est à titre de principe. À titre de principe efficient, écrit même Maritain, dont la causalité première donne l'être à tout dans l'âme, mais à titre de terme vers lequel l'âme est intérieurement tournée, retournée, convertie, ordonnée, comme à un objet de connaissance et d'amour. C'est ça la force du christianisme. C'est Dieu est créateur, donc c'est à titre de principe. Mais en même temps, nous sommes orientés vers cette vision de Dieu, vers ce dialogue, cette rencontre du je-tu, c'est une orientation, c'est en termes aristotéliciens la cause finale. Et c'est ce qui donne le sens à notre vie, à notre singularité d'être unique en tant que personne et au monde dans sa totalité. Maritain rajoute tout de suite. Ajoutons, car c'est la clé de toute la question, non pas d'une connaissance et d'un amour quelconque, non, d'une connaissance et d'un amour fruitif, expérimentaux, qui nous mettent en possession de Dieu, nous unissent à lui réellement et non à distance. Vous retrouvez le lexique fruitif, on parle de fruition, c'est un lexique thomiste qui est un peu perdu. Actuellement, on ne retrouve plus le mot fruition, mais on retrouve de moins en moins le mot âme dans nos conversations courantes, donc ne nous étonnons pas de l'éclipse d'un certain vocabulaire. Ce qui est important, c'est de comprendre que les personnes divines se donnent à nous, et c'est pour que nous les possédions, pour être à nous. Le don de Dieu est tel qu'il nous met en état, écrit Maritain, selon le mot de saint Thomas, de jouir librement des personnes divines. Et cela serait-il possible si elle n'était pas là, réellement, ontologiquement présente et s'offrant au fond de nous? C'est par les dons du Saint-Esprit que cette communion de Dieu et du jeu de l'homme est possible. Et on arrive à une connaissance. Alors Maritain va distinguer deux modes dans cette connaissance. Le premier mode, c'est une connaissance de mode qu'il appelle suprahumain et surnaturel. Le mode humain et naturel de connaître consiste à connaître par des idées et des concepts, vous l'avez compris. Et donc, en ce qui concerne les choses divines, par l'analogie des réalités créées, sur lesquels est mesurée la manière de signifier de nos concepts. C'est pourquoi la foi, bien qu'elle atteigne Dieu selon son intériorité même et sa vie propre, ne l'atteint ainsi qu'à distance et reste une connaissance médiate, énigmatique, comme dit saint Paul, nous connaissons tout en énigme, en ce sens qu'elle use pour cela, comme nous le notions plus haut, et c'est toujours Maritain que je cite, à la fin des degrés du savoir, nous usions de moyens formels proportionnés à notre mode naturel de connaître, concepts et formules conceptuelles, notions analogiques ou plutôt suranalogiques. Le deuxième mode, et là c'est, j'allais dire, un mode qui va être très important pour Maritain et que Maritain va exploiter dans d'autres domaines. C'est la connaissance par connaturalité. Il s'appuie sur saint Thomas qui dit qu'il y a deux moyens de juger des choses de la chasteté. Avoir dans notre intelligence la science morale, qui crée en nous une proportion intellectuelle aux vérités concernant cette vertu, ou bien avoir dans nos facultés de désir la vertu même de chasteté. Avoir cette vertu incarnée, inviscérée en nous, ce qui nous permet de répondre juste par mode non plus de science mais d'instinct, en consultant notre inclination, notre connaturalité avec la chasteté. Vous sentez bien que la connaissance par connaturalité, qui n'est pas une connaissance de science, est quasiment une connaissance expérimentale. C'est concret, c'est vécu, c'est presque une évidence. Vous le sentez bien, un paysan à qui vous allez parler du temps, il ne va pas s'appuyer sur la science de la météo. Il va s'appuyer sur une sorte d'habitus, d'expérience, et là, il y a une sorte de connaturalité avec la nature. Vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen de dépasser la connaissance par concept que d'user pour connaître de notre connaturalité même. De notre connaissance, comme dirait Claudel, ou co-nativité avec lui. Vous savez bien, Claudel use souvent de jeux de mots. Hein. Le poète, il écrit avec un tréma pour insister sur poiein, du verbe grec. Et co-naturalité, co-naître, il l'écrit avec un trait d'union, c'est naître avec la connaissance de l'Est, un beau recueil de Claudel. C'est naître avec l'Est, lui qui fut diplomate en Chine. Qu'est-ce qui peut donc nous connaturaliser radicalement à Dieu? Vous l'avez deviné, la grâce sanctifiante, par qui nous sommes rendus à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui nous fait passer à l'acte, fleurir en actualité opérative cette connaturalité radicale? C'est la charité. Nous sommes connaturalisés à Dieu par la charité. La charité, je le rappelle, trois vertus théologales, amour, c'est la charité, foi et espérance. Alors même si l'espérance est la petite sœur entre ces deux aînés, hein, selon Peggy, la charité reste la vertu théologale la plus forte pour cette expérience mystique. La charité n'est donc pas un amour quelconque, elle suppose la grâce sanctifiante, écrit Maritain, dont elle est la propriété, et elle atteint Dieu comme réellement présent en nous à titre de don, d'ami et de convive éternel. De plus, elle atteint immédiatement Dieu, en tant même que Dieu, dans sa déité même, dans sa vie absolument propre et intime, dont il nous béatifiera. Elle l'aime en lui-même et par lui-même. On a des pages sublimes de Maritain, qui n'est pas théologien, qui le répète, mais qui est tellement beau dans son expression que sa vision théologique est claire et peut nous aider dans ce temps de montée lente vers Pâques. C'est en vertu même du don que Dieu nous fait de lui, écrit Jean de saint Thomas, qui est un auteur particulièrement aimé des Maritains, c'est un commentateur de saint Thomas, et Raissa a traduit ses dons du Saint-Esprit, qui est une œuvre majeure, qui a beaucoup marqué les maritains et qu'on peut encore trouver chez les bouquinistes. Donc c'est en vertu même du don que Dieu nous fait de lui et de l'union que l'amour expérimente, que la sagesse mystique atteint les choses divines, rendues par l'amour plus uni à nous, plus immédiatement touché et goûté, et nous fait percevoir que ce qui est ainsi senti dans l'affection est plus haut et plus excellent que toute considération des vertus cognoscitives. La foi, dans son obscurité, atteint Dieu comme restant d'une certaine manière à distance, en tant que la foi est ce qui n'est pas vu. Mais la charité atteint immédiatement Dieu en lui-même, s'unissant intimement à cela même qui est caché dans la foi. Et ainsi, bien que la foi règle l'amour et l'union à Dieu en tant qu'elle propose l'objet, cependant, en vertu de cette union par laquelle l'amour adhère immédiatement à Dieu, l'intelligence est élevée par une certaine expérience affective à juger des choses divines d'une façon plus haute que ne le comporte à elle seule l'obscurité de la foi. Pourquoi ? Parce qu'elle pénètre et connaît qu'il y a plus de caché dans les choses de la foi que la foi elle-même ne le manifeste, y trouvant plus à aimer et à goûter dans l'amour, et de ce plus dont l'amour lui fait éprouver qu'il est caché là. Elle juge plus hautement des choses divines sous un instinct spécial du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez lu des grands spirituels, je ne dis pas des mystiques, des spirituels. Ils parlent souvent de ce lexique, de goûter, sapere en latin. Ils parlent de la suavité de Dieu. Et c'est important parce que c'est un lexique incarné. Incarnation magnifiquement illustrée par cette musique de Messiaen, il s'agit de la nativité. Et j'en profite pour faire un petit paragraphe sur l'orgue. Pourquoi est-il un instrument de l'Église et de la liturgie ? Mais vous l'avez bien entendu, avec ce magnifique durée, ces notes tenues, ces points d'orgue, c'est parce qu'il est l'instrument de la durée par excellence. Le poumon humain a été remplacé par une caisse dans laquelle il y a une réserve d'air, qui est, l'air rentre soit par des soufflets qu'on a actionnés au XVIIIe siècle à la main, puis avec l'arrivée de l'électricité, on peut mettre un moteur en marche. Et cette réserve d'air fait que le son ne s'arrête jamais. Tant que l'organiste tient sa main sur le clavier et enfonce les touches, c'est un son qui dure, autrement dit, c'est l'éternité. C'est l'illustration de Dieu, stabilité, éternité. Pendant que le monde tourne, la croix, elle, demeure, stat, crux. Et vous savez, au Moyen-Âge, il y a eu une bulle papale quand l'apparition des croches est arrivée pour la condamner. Pourquoi ? parce que ce qui est petite valeur, croche, valeur courte, double croche, etc., c'est le désordre. C'est quelque chose d'instable qui peut être l'image du diabolus. Le diable, diaballo, c'est envoyé ici et là, dia. C'est ce qui va à droite, à gauche, comme peut le suggérer une valeur courte. Voilà. Voilà la raison pour laquelle l'orgue a toujours été l'instrument privilégié de la liturgie, parce qu'il est une sorte d'illustration concrète, sonore, tangible, de la durée, de l'éternité de Dieu. Alors revenons à Jean de Saint-Thomas, qui nous a très bien expliqué ou évoqué comment l'inhabitation trinitaire peut nous permettre cette divination, puisqu'en Orient, on parle de divination. L'homme devient Dieu, l'homme se fait Dieu. Et ce passage de Jean de Saint-Thomas nous introduit à Saint-Jean de la Croix autour de la notion de caché. Vous l'avez bien noté, la foi nous laisse beaucoup de choses cachées. On n'atteint pas la réalité que l'expérience mystique révèle. Et cette notion de caché est forte, parce que dans l'expérience mystique, c'est Dieu qui est libre, c'est Dieu qui mène le jeu. Et il ne va pas tout dire, il ne peut pas tout dévoiler, tout simplement parce que cela lui appartient. Alors, nous tenons ici une des racines théologiques de la doctrine de Saint-Jean de la Croix, et que Maritain cite. « Cherche-le dans la foi et l'amour, comme un aveugle. Ces deux guides te mèneront par des chemins que tu ne sais pas jusqu'au secret de Dieu, la foi et l'amour. Il est caché en toi, et tu ne te caches pas comme lui pour le trouver et le sentir. Si quelqu'un veut trouver une chose cachée, il faut qu'il se cache pour entrer là où elle est cachée. Et quand il l'a trouvée, il est caché comme elle. Toujours, tu dois le tenir pour caché et le servir caché en te cachant. » Donc il s'agit du cantique de Saint-Jean de la Croix, c'est la première strophe. Cette idée de caché, on la trouve dans la liturgie avec la transfiguration. Le 6 août, la fête de la transfiguration, on magnifie ce texte magnifique qui est énoncé de manière très sobre dans l'évangile de Marc, où le Christ apparaît à Pierre, Jacques et Jean sur un mont, qu'on va désigner comme le mont Tabor. Il est entouré de Moïse et d'Élie, c'est-à-dire de la loi et des prophètes. Il va annoncer sa passion à Jérusalem et il apparaît transfiguré avec des habits qui étaient plus blancs que la neige. Donc des habits d'un blanc si brillant qu'on n'arrive pas à les décrire. Et c'est une révélation de quelque chose qui est caché. Le Christ vit au quotidien en tant que fils de Dieu avec ses apôtres. Mais cette gloire ne se révèle que sporadiquement, de temps en temps. En Saint Jean, elle se révèle pour la première fois à Cana. C'est le premier signe de sa gloire que la transformation de l'eau en vin. Donc voilà comment Saint Jean de la Croix peut déjà nous donner une indication. C'est que le baptisé, le croyant, le fidèle, va épouser le mode même de la divinité de s'exprimer, et elle s'exprime sous la modalité du caché ou bien de la transfiguration, si cela est plus éclairant, c'est le cas de le dire, pour vous. Du coup, l'expérience mystique, si elle donne un savoir, c'est pas un savoir ultime, c'est un savoir relatif, c'est pas un savoir parfait. Il y a d'autres possibilités d'acquérir d'autres savoirs plus tard. Du coup, elle est une expérience propre à notre condition de mortel, de notre condition d'homme dans la patrie. Et on peut dire que c'est une expérience qui met loin le concept, avec la difficulté que c'est le concept qui va nous permettre de rendre compte de l'expérience mystique. Maritain va insister sur l'importance de l'analogie. Lorsque dans l'acte de la contemplation infuse, le don de sagesse délivre la foi sous l'opération de Dieu du mode humain des concepts et de l'analogie. Je ne dis pas des formules conceptuelles exprimant la vérité révélée. Je dis de l'usage actuel de cette formule conceptuelle distincte comme moyen formel de connaître. Dieu supprime en quelque façon, non par la vision, mais par l'expérience de l'amour, cette distance à l'objet qui est le fait de la foi toute seule. C'est la foi elle-même qui est rendue savoureuse et pénétrante, nous faisant adhérer par des moyens plus purs et plus parfaits, suprahumains, à son objet ultime, à la réalité divine dont les formules conceptuelles sont le signe et qui est maintenant possédée dans l'unité d'esprit. Maritain écarte une illusion, qu'il précise. C'est une désastreuse illusion de chercher l'expérience mystique en dehors de la foi, d'imaginer une expérience mystique affranchie de la foi théologale. Vous voyez contre qui il se bat ? Tout simplement contre le romantisme et le néo-romantisme. Avec une expérience mystique où le poète devient le remplaçant non seulement du prêtre mais du Christ lui-même, et ce poète va être un illuminé qui aura accès à une connaissance que les autres humains n'ont pas. Il est le passeur entre le monde des dieux et le monde des hommes. Cette mystique-là n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle confond la poésie, dont la poésie n'a pas pour fin la connaissance, avec la connaissance qui est réservée ou bien à la métaphysique, ou bien à une expérience mystique, mais mystique illuminée par la foi, de vraie mystique et pas de pseudo-mystique. Maritain vise la confusion des plans que vous avez par exemple dans Illumination de Arthur Rimbaud. Illumination, le poète est illuminé et donc il a accès à une pseudo-mystique qui lui donne un savoir, une alchimie du verbe. Hein. Le mot est employé par Rimbaud, c'est un alchimiste que n'ont pas les autres hommes. Et contre cette mystique qui va finalement donner à l'adjectif mystique une élasticité telle qu'il ne dit plus rien. Tout va devenir mystique, tout ce qui est rationnel est mystique. Et c'est grave parce que intégrer l'expérience mystique dans les degrés du savoir, c'est une audace extrême à condition qu'on soit très précis sur le vocabulaire mystique. Donc si Maritain peut parler de mystique naturelle, c'est un certain titre que je n'ai pas abordé dans ces émissions, mais il insiste que la connaissance qu'on peut avoir de Dieu par l'expérience mystique surnaturelle reste une expérience d'ordre théologal. La foi vive, écrit-il, illustrée par les dons, est le principe même de cette expérience. Et pour rappeler la parole royale de Saint Jean de la Croix, que nul commentaire philosophique ne parviendra à effacer, elle est le seul moyen prochain et proportionné de l'union mystique. Maritain s'attache à quelques problèmes. Il a un goût pour les schémas. Je ne peux pas vous en parler à la radio. Je vous renvoie donc au degré du savoir. Et nous allons aborder maintenant, après les objections qu'il laisse de côté, il y en a quatre en tout, nous allons aborder la mystique. Avec une dernière question, une expérience mystique de la réalité divine peut-elle, à un titre quelconque, être incorporée à la philosophie, à la métaphysique ? En d'autres termes, la sagesse à laquelle tend l'effort métaphysique requiert-elle de soi une expérience mystique, un pati divina, car c'est un pâtir, une passivité ? Non, répond Maritain. Cette expérience mystique qui serait requise par l'effort métaphysique serait nécessairement ou naturelle ou surnaturelle. L'expérience mystique qui serait requise par l'effort métaphysique serait-elle l'expérience divine d'ordre surnaturel, de la contemplation infuse ? Cette expérience-là existe bien, mais l'incorporer à la philosophie, la regarder comme exigée de soi par l'effort métaphysique, c'est de nouveau brouiller l'ordre de la nature et de la grâce, en faisant d'une connaissance essentiellement surnaturelle un réquisite nécessaire ou un co-principe constructif d'une connaissance essentiellement naturelle. Étanchéité des domaines, mais donc l'expérience mystique va avoir un apport par ce qu'est la conaturalité, que nous regarderons la fois prochaine.